récemment, j'ai eu un faux avis parce que j'ai. En fait, le truc, c'est que les personnes mettent les photos.
D'accord.
Il y en a qui mettent des photos et moi, j'ai une photo d'une pizza avec,
qui n'est pas la
avec, une boîte marron. Alors que moi, mes boîtes sont blanches déjà, donc ce n'est pas du tout mes pizzas.
D'accord.
Je l'ai signalé à Google à plusieurs reprises, je n'ai jamais eu de retour. J'ai répondu à cette personne pour dire qu'ils se trompaient de pizzeria. En plus, ils peuvent enlever leur avis. Ils peuvent les enlever leur avis.
Ouais.
Mmh. Ils peuvent le supprimer. Mais non, l'avis est toujours. En fait, tu passes de 4,3 à 4,2 pour un avis alors que ce n'est pas du tout ta pizzeria.
Après, ça vous a fait du tort ? Vous avez eu moins de clients ?
Non, enfin, en ce moment, c'est calme. En ce moment.
Ouais. C'est pour d'autres raisons, ça, à mon avis. Ça, c'est pas pour après les fêtes.
Ça, c'est sûr. Et moi, ça fait 13 ans que j'y suis, donc voilà. Donc,
mais en fait, c'est ça le problème. C'est qu'une fois qu'on signale à Google que tout ça est bidon, il faudrait que Google le retire.
Non,
aucune réponse, rien.
Il
n'y
a aucune réponse, tu ne peux pas.
Non. Et comme j'ai reçu un avis un jour, il y a quelques années. Quand on reçoit un avis, on peut voir la personne, on peut voir combien d'avis elle a mis. On peut savoir d'où elle a mis les avis. Et moi, j'ai un avis négatif d'une personne, elle a mis un avis. Et c'est le mien. Une étoile. On ne sait pas.
Et vous savez si c'est une vengeance, si il y a quelqu'un qui a.
On ne peut pas savoir. C'est ça le problème. On ne sait pas.
Un concurrent qui se cache derrière ou quoi que ce soit.
Quand tu crées un compte qui a un avis, c'est que forcément, normalement, quand tu mets un avis, il y a moins de 35 avis, 12 avis, les gens mettent des avis. Là, il y a un avis et c'est que sur moi. Et la personne te dit comment ça se fait que cette pizzeria tienne debout.
Ah oui, d'accord. Avec même pas les bonnes pizzas, les bons cartons à pizza, Jean-Loup.
Ouais, c'est intéressant, j'ai entendu quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit à cause d'un seul avis, votre note a descendu, vous êtes passé de 4,3 à 4,2. Mais le fait que vous ayez précisé ça, ça montre à quel point quand même c'est important, prégnant et angoissant pour vous, en fait, cette question d'avis. Et qu'on vit maintenant un peu dans... Je me souviens d'un film qui avait été fait justement sur le mouvement des Gilets jaunes qui s'appelle « Effacer l'historique », vous savez, par l'équipe de Groland. Et dans ce film, il y avait justement... qui était joué par Corinne Mazero, un personnage qui était chauffeur Uber et qui était obsédé par les notes que lui mettaient ses clients. Et donc, on vit quand même dans une société de la notation permanente qui met sous pression les individus.
Cette même société qui veut supprimer les notes à l'école.
Dans un moment,
il n'y a plus de notes à l'école. Et en même temps, on est noté tout le temps.
Olivier, c'est quand même... Je suis désolée. Là, aujourd'hui, on est en train de nous faire croire que la liberté d'expression, c'est tout et n'importe quoi.
Non, la vie du client,
Non, la liberté d'expression, c'est le fait qu'on est dans une société où on est libre de pouvoir parler et dire ce qu'on pense. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout noter, tout commenter et qu'il n'y a pas de hiérarchie entre des avis. Moi, je persiste et je signe. Un guide Michelin qui a fait des études dans le domaine culinaire, etc., il sait mieux que moi, il a un palais plus aiguisé que le mien, et il est mieux formé que moi pour savoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon.
Oui,
Laissons
les élus.
Ça n'a rien à voir.
Je vais juste dire une phrase à Flora. Pareil. Ça, ce qu'elle dit est peut-être vrai, mais par contre, en cinéma... Télérama n'est pas meilleur que moi pour dire ce qu'est un bon film.
D'ailleurs, il faut suivre
c'est un peu la boussole du Sud.
Quand Télérama aime une comédie, on sait qu'on va pas rire. Lorsque Télérama n'aime pas une comédie, c'est qu'on va passer un bon moment.
Il y a une liberté de donner son avis, oui, mais il faut rappeler que la diffamation, c'est un délit. On mélange pas tout. Parce que tu as des avis qui ne sont absolument pas mesurés et qui vont au-delà de ce qui s'est passé pour les restaurateurs, les hôtels, les médecins, même tout. Et donc, tu déposes ça et tu le fais de façon anonyme. Et cette sanction qui est au-delà de ce qui s'est passé, tu te la traînes toute ta vie.
Mais Jérôme,
donc la problématique, c'est de remonter. Est-ce que tu vas porter plainte ? Évidemment pas, parce que tu n'as pas le temps. Nous, on invite en tant que syndicat, et on l'a fait déjà, on a défendu déjà des gens qui ont pris des avis comme ça, qui étaient, si tu veux, au-delà de l'outrance. Et on a poursuivi
la loi pour ça. Mais pardon, vous parlez d'escroquerie avec donc des faux comptes. Vous parlez de diffamation.
Bah c'est le débat qu'on mène là.
Pardon, mais tout ça, c'est déjà il y a la loi pour ça. On peut pas, en partant d'une affaire d'escroquerie et de gens qui racontent n'importe quoi, dire que c'est pas une bonne idée quand même que les consommateurs aient le pouvoir simplement de noter qu'un produit n'est pas bon et qu'il est vendu sur Amazon. Pardon, je prends un exemple et que moi je trouve que sur Amazon il y a des notes. Bah c'est bien parce que si les types disent n'achetez pas ça parce que ça, au bout de 15 jours,
tu défends les consommateurs.
Moi, je défends le consommateur. Et je pense que le suffrage universel, c'est toi, Olivier, comme moi, on compte de la même façon.
Olivier,
c'est
tu
ça,
défends, oui, tu défends le consommateur qui devrait avoir le droit absolu de se plaindre si sa pizza n'était pas bonne.
Tu peux dire du bien. Tu peux aussi
donner une note positive. Olivier, tu défends le consommateur absolument parce que si sa pizza n'était pas bonne, il doit avoir le droit de se plaindre. Oui. En revanche, tu ne défends pas les femmes qui, parfois, ont besoin des réseaux sociaux ou des médias pour s'exprimer et dénoncer des agressions qu'elles auraient subies. C'est assez paradoxal.
C'est quand même
paradoxal.
La même chose de dénoncer une mauvaise pizza.
Bah, c'est assez
et
paradoxal. Bah, c'est plus important de libérer la parole des femmes que de libérer la parole des mangeurs de pizza.
Les conséquences ne sont pas tout à fait
Stéphane
les mêmes.
Stéphane Manigold, notre GG, Stéphane restaurateur. Bonjour Stéphane.
Salut Alain, salut Lié, salut les GG.
Alors, est-ce qu'on est dans la tyrannie de la note aujourd'hui?
Mais tu sais, moi je vais être un peu sur la ligne d'Olivier Truchot. C'est-à-dire que le consommateur doit pouvoir s'exprimer. Oui. Mais le consommateur, c'est-à-dire celui qui est venu, qui s'est installé, qui a
vraiment
mangé,
venu
et qui doit pouvoir juger. Or aujourd'hui, eh bien, tu as des espèces de tout, hein, qui s'exprime pour tout et rien. Moi, par exemple, je donnais l'exemple d'un commentaire que j'avais pris pendant le Covid, d'un type qui n'est jamais venu, évidemment, qui avait dit, n'y allez pas, le vin a le goût du Pfizer. Bon, ben voilà le genre de commentaire que tu te prends avec une étoile et t'arrives pas à faire supprimer ce
donc
genre.
Donc, il faut la faire suivre, il faudrait faire comme en Italie, exiger finalement une vérification d'identité ou en tout cas qu'il y ait une preuve que la personne a vraiment été dans ton restaurant.
Alors, par exemple, tu as des plateformes qui le font. On va aussi parler positivement. T'as The Fork, La Fourchette, entre guillemets, où seuls ceux qui sont venus peuvent émettre un commentaire. Et moi, ça me va. Parce que je veux bien être jugé, je veux bien qu'on juge, et c'est normal, un salon de coiffure, un boucher, un plonger, un hôtel, un restaurateur, et c'est normal, parce que le vrai patron, ça reste le client, mais le client, pas le client du cul qui est jamais venu chez nous et qui nous met des sales commentaires et qui détruit. Parce que derrière, qu'est-ce qui se passe? Tu as des salariés qui se démotivent dans ce secteur ou dans les autres secteurs. Ils prennent des balles, ils prennent des mauvais commentaires, alors que le mec, il n'est jamais venu. C'est insupportable, c'est inhumain, en fait, parce que derrière, tu as des êtres humains, tu as des serveurs, tu as des cuisiniers, tu as des gens qui ont fait leur métier et ils se prennent des mauvaises notes, ils se font détruire une réputation. Rien, juste par des lâches qui, par des pseudos, ont créé un compte sur Google, ont créé un compte sur TripAdvisor et vont démolir une entreprise de l'artisanat. Et ça, il faut le combattre. Oui à la liberté pour le consommateur, et le consommateur doit pouvoir dire quand il s'est fait arnaquer, quand il a mangé de la malbouffe, et connaissez mon combat sur la malbouffe, il doit pouvoir le dire, il doit pouvoir dénoncer qu'on s'est foutu de sa gueule parce qu'on lui a dit que sa blanquette de veau elle était faite maison alors que c'est juste un truc purement industriel. Ça, le consommateur doit pouvoir le dénoncer et les autres doivent pouvoir le voir. Mais le consommateur, moi je suis pour que le consommateur puisse s'exprimer, pas n'importe quel guignol caché derrière un pseudo.
Merci Stéphane d'avoir été avec nous.
Salut les amis, restaurateur. Bon appétit.
Salut Stéphane. David de l'Hérault. Bonjour David.
Bonjour.
Responsable commercial.
Ouais, c'est ça exactement.
Dans une grosse entreprise de menuiserie.
C'est ça, tout à fait. Pour apporter une petite précision, nous on le fait. Comme je disais au standard, nous on est poussé par notre direction à mettre entre 10 et 15 lundis par mois. Le truc, c'est qu'en fait, c'est pas complètement de leur faute. C'est parce qu'il y a aussi un gros système qu'on parle pas beaucoup, qui s'appelle Trustpilot. Trustpilot vous met des avis, vous défonce et vous propose un droit de réponse payant. Donc nous, on l'a fait la première année. La première année, on a payé. La deuxième année, quand on a vu que les mauvais avis revenaient, ils nous ont reproposé une offre commerciale.
Là, le racket. C'est du racket.
C'est, il faut compter à peu près 2000 balles par mois, hein, quand même, pour pouvoir avoir ce droit de réponse sur Trustpilot. Donc, en fait, nous, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis directement à l'intérieur de notre logiciel un petit lien où les gens, en rendez-vous, on est censé prendre leur avis. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, du coup, les directeurs nous disent, ne demandez pas l'avis des gens, mettez directement des 5 étoiles, mettez des commentaires. Et je vous dis, on a un quota entre 10 et 15 par mois par commercial.
Ah oui, d'accord.
Trustpilot. Ouais. Et c'est quelque chose que nous, on a pris d'un coup. Alors nous, entre nous, on appelle ça la guerre des étoiles, mais c'est vraiment un business. C'est-à-dire que vous avez des mecs qui vous défoncent, et puis après, ils vont vous demander de payer ou pour répondre ou pour retirer les avis négatifs.
D'accord. Ça, je ne connaissais pas la boîte là, qui vous dit est-ce que vous voulez qu'on vous aide.
C'est un délit. On va leur faire de la pub.
Ah, je ne connaissais pas.
Après, ils vont nous mettre des mauvais commentaires. Ça fait peur.
Exactement. Et maintenant, vous avez carrément.
Enfin, faudrait que les pouvoirs publics s'en emparent.
Vous avez carrément des logos, les logos des boîtes donc, qui bossent avec eux. Donc, ça vous donne l'impression que c'est certifié. Mais en fait, tout est payant.
Ok, merci de ces renseignements, David. Merci d'avoir voilà, été.
On vous donne une bonne note, David.
Passez une bonne journée, David.
Le seul gagnant dans l'histoire, c'est Google.
Tyrannie ou transparence, les avis en ligne. On va voir ce que vous en dites. Vous dites quand même, c'est de la transparence à 58%. Mais pour 42% d'entre vous, ça reste de la tyrannie.
RMC, 9h midi, les grandes gueules. Si un jour vous ne captez pas RMC, pas d'inquiétude.
RMC est aussi en direct sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Pour vos pauses musicales, téléchargez l'appli RMC.
RMC vous offre aussi une radio digitale 100% musicale.
C'est RMC Gold.
RMC, bien plus qu'une radio.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC, 9h, midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
L'île d'Oléron. Alors, franchement, je ne savais pas, je m'en doutais, mais je ne pensais pas que le chiffre était aussi important. Si. 2/3 des résidences secondaires sont louées en meublé touristique sur, sur l'île d'Oléron. Et là, maintenant, la municipalité dit trop, c'est trop.
Oui, bah, l'île d'Oléron, c'est une île qui vit surtout l'été. Donc, c'est vrai que si vous y allez l'hiver, tous les volets sont, les volets sont clos. 6 logements sur 10, ce sont des résidences secondaires. Et 2/3 sont loués en meublé touristique comme Airbnb. Et donc, pour redynamiser l'île à l'année, des élus propose de mettre en place une prime de 10 000 euros pour les propriétaires qui accepteraient de renoncer à louer par Airbnb. Alors, est-ce que c'est la bonne méthode ? C'est assez surprenant. C'est vrai qu'il y a aussi un souci, pas seulement à Oléron, mais dans toutes les zones touristiques. C'est-à-dire que les gens sont obligés de se délocaliser pour se loger parce que c'est trop cher. Si tu es tu travailles là, tu peux pas te loger là où tu travailles. Bon, ça c'est un problème plus global dans toutes les zones touristiques. Mais est-ce que c'est une bonne idée de donner 10 000 euros pour que le propriétaire renonce à louer son bien en Airbnb?
Jo,
écoute, moi je vais prendre le problème un peu plus en amont, quoi. Je connais plein de régions en France en train de se désertifier où le tissu économique est en train de crever. Et quand les touristes, alors chez moi plutôt suisses, belges, viennent acheter des granges en train de tomber des milliers d'euros, il y a personne qui pleure, quoi, là.
Ah non ?
L'île d'Oléron, avant le début du tourisme de masse, c'était des cabanes de pêcheurs en train de tomber les unes sur les autres.
Exactement.
Quand les gens ils viennent et ils mettent du pognon dans l'île pour acheter des résidences secondaires, ça va bien, quoi. C'est super et tout le monde profite de la manne financière. Moi, j'ai des copains qui vendent des tas de pierres sur le plateau d'Aubrac ou dans le Cantal aujourd'hui, des fortunes. Il n'y a personne qui se plaint. Par contre, quand sur le plateau d'Aubrac, il n'y aura plus que des cabanes à touristes, eh ben, on va se plaindre que les habitants du coin, ils n'arrivent plus à vivre. Et à un moment donné, dans ces pays de désertification, si tu ne tiens pas un minimum de tissu économique, eh ben, tu vis du tourisme. Et quand tu es comme dans l'île de l'Oléron, que tu vis uniquement du tourisme...
Et des huîtres aussi.
Ouais, enfin, les tourisme, je suis désolé.
Oui, bien sûr,
tu vis du tourisme à Oléron. Oui. Et ben, t'acceptes de vivre du tourisme et de ses désagréments. Ben oui. Quoi, hein. Moi, je veux bien entendre que.
Donc, il y a un peu d'hypocrisie dans
mais
tout ça.
Mais carrément, carrément, c'est trop facile de donner.
Il y a aussi.
Dans la famille.
Qui roule toujours mieux, t'as mes préférés. Sur RTL.
Et l'heure du crime.
Raison de se méfier l'un de l'autre et ça.
Je crois que c'est ça le bon message. Parce que quand vous êtes.
Ne continue plus à valoriser que ça.
D'elle.
Qu'on lui attribue. As memories, I just wanna let it go.
Richelieu fait partie
de façon extrêmement importante. On sait que les cancers.
Le mec, il va toucher ça en un peine un mois, hein, s'il loue son truc. Parce que l'île de Léon, c'est comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, à la semaine, tu es entre 2 et 5 000 balles, suivant la taille du truc. Donc le mec, les 10 000 balles, il va les faire en 2 ou en 4 semaines.
Donc c'est pas très attractif.
T'as intérêt à lui donner 10 000 balles tous les mois.
We'll be right back.
Thank you. des oursons enfantins, il est encore parmi nous, Claude Gagnébé.
L'ours apparaît, par exemple, dans le carnaval tchèque. Et là encore, on a pu chercher à en déterminer l'origine. En France, l'ours apparaît surtout dans les fêtes de la Chandeleur. À ce moment-là, par exemple dans les Pyrénées-Orientales, un certain nombre de jeunes gens se déguisent en ours. Ils vont hors du village pour s'habiller et ils font ce que l'on appelle le jeu des ours. En quoi consiste ce jeu des ours ? Les jeunes gens sont revêtus de peau de mouton, fraîche. Ils ont le visage entièrement barbouillé de noir. Ils ont en main de gros bâtons. Et brusquement, au début de l'après-midi, ils fondent sur le village, poursuivent tous les gens, mais spécifiquement les jeunes filles, et cherchent à les barbouiller. Ils sont accompagnés de chasseurs, et ces chasseurs, de temps en temps, tirent, et les ours s'abattent comme s'ils étaient morts, puis ressuscitent et se remettent à poursuivre les gens, ceci toute l'après-midi. On a des descriptions assez anciennes de ce jeu des ours. Il est difficile de savoir quel est le sens exact de cette coutume. Mais on peut être au moins certain d'une chose, c'est que cette coutume correspond à un dicton, qui est le dicton des ours à la Chandeleur. Ce dicton est un dicton européen général. On le retrouve depuis l'Angleterre jusque en Hongrie, en Italie, où il a été bien étudié. Ce dicton affirme que le jour de la Chandeleur, l'ours sort, regarde le temps qu'il fait. S'il fait clair, s'il voit son ombre par exemple, il rentre et il y a encore 40 jours d'hiver. S'il fait sombre, il sort et c'est la fin de l'hiver. Et vous vous souvenez que nous avons dit que les fêtes de Chandeleur Mardi Gras étaient des fêtes de printemps. On voit donc ce que cela veut dire au point de vue populaire. Il y a un printemps populaire qui est un printemps qui apparaît donc soit le jour de la Chandeleur, soit 40 jours plus tard. C'est ce que l'on pourrait appeler le printemps de l'ours. Or, que font les ours ? Ces jeunes gens déguisés en ours. Il faut qu'ils sortent pour que le printemps arrive. Et il leur faut donc qu'autour d'eux, tout soit sombre. On comprend alors qu'ils barbouillent en noir tous les gens qu'ils rencontrent. C'est en effet la condition de leur sortie. Si au contraire, c'est le triomphe des blancs, parce qu'ils sont entourés de personnages, d'une part les chasseurs qui maintenant ont des déguisements très peu spécifiques, mais ils sont entourés de personnages qu'on appelle maintenant les docteurs, mais qui sont les barbouillés en blanc, les enfarinés, les pyrolunaires du carnaval. Et ces personnages, ils vont lutter contre eux.
Quand ça vous avez commencé pour l'ours ?
15 ans que j'ai fait l'ours. M'a chiré beaucoup de femmes, les fesses, le genou, le menton.
Qu'est-ce qu'on leur faisait aux femmes quand on était ours ?
Je lui mâchais justement les fesses. Parce que dans la figure de fois, je n'en voulais pas, alors je mettais la main en bas. Proprement au côté du genou, là, aux fesses, quoi.
Et on le faisait comme maintenant, exactement ?
Pareil. Plus joli que maintenant.
Mais vous montiez au fort ou bien ?
Ah oui, toujours.
Il n'y avait pas de cabane sur la place ?
Il y avait des cabanes sur la place, mais au fort, on cassait la croûte au fort. On descendait en roulant du fort jusqu'au cimetière, là.
En roulant les deux ours ensemble ou...
Ensemble. Des fois ensemble et des fois un par un. Mais presque tout ensemble.
Avec les hommes.
Avec un chasseur.
Avec les chasseurs.
Avec les chasseurs.
Il y avait des chasseurs à ce moment-là.
Une quinzaine ou vingt de fois.
Les femmes, elles montaient là-haut?
Ah oui, ils montaient. Il y en avait qui descendaient sans culottes, sans rien, sans pyjama, à poids. Ils arrivaient au cimetière. Ils se sauvaient pour toute la nuit. Après le lendemain, on recommençait là. Le cinéma là, de ce masque et tout ça. Tout le monde en colère. Même trois jours sans se coucher la nuit.
Dites-moi, l'ours, lorsque vous vous barbouillez la figure, de quelle couleur c'était? C'était noir aussi ou...
C'était du noir de fumée, de l'huile comme ça.
Oui, juste noir, mais il n'y avait pas d'autre couleur.
Non, non, pas d'autre couleur.
Couleur noire.
Une fois, il y avait eu des couleurs de rose et de vert, tout ça, mais ça restait au moins 15 jours sur la figure, de, même avec le type, ils ont changé la peau. C'était pas de noir de fumée, ça.
Lui le faisait bien,
Lorsque l'ours court après quelqu'un pour le barbouiller, est-ce qu'il le fait sur la commande de d'autres
personnes?
Ou est-ce que c'est lui?
On le fait sur la commande d'une autre, mais l'ours, quand il voit quelque chose que ça vous plaît, oui, il court dessus. Mais sans faire de mal à personne. Par exemple, vous voyez une personne habillée un truc comme ça, il faut être très poli, un truc comme ça sur la figure, mais pas de vestir le costume ni rien, parce qu'on a eu de procès verbal avec ça. Mais non, mais de mes collègues, ils ont eu de reproches et des embêtements. Parce que vous voyez une femme habillée, il faut pas la tenir par terre, il faut pas lui mettre le main sale sur le manteau, sur le vêtement, un truc comme ça.
Arles-sur-Tech. On possède un jeu très curieux. Un certain nombre de déguisés, que l'on appelle les tortues, sont enveloppés dans de grands draps formant un cylindre. Ils sont barbouillés de blanc et ils entourent l'ours. L'ours, avec une grande badine, cherche à leur faire rentrer la tête. Autrement dit, on voit sortir de temps en temps une tête lunaire blanche qui, sous la baguette de l'ours, va rentrer rapidement. Et on comprend en effet que ce blanc peut être bien lunaire dans la mesure où on pense que le soleil de l'ours est la lune. Que ce blanc va être en quelque sorte effacé par l'ours qui désire sortir et ainsi amener le printemps. Le conte de Jean de l'Ours est très probablement le conte le plus répandu et véritablement un des contes les plus populaires dans tout le domaine indo-européen. C'est l'histoire d'un homme très fort qui s'appelle Jean. Il s'appelle Jean depuis la Bretagne jusque dans le domaine slave. On a toujours ce même Jean, et il est fils d'une femme et d'un ours. Une femme a été emmenée par un ours, où elle s'est réfugiée dans la caverne d'un ours, et elle a un fils très fort, qui se fait aider par un forgeron au cours du début de ses aventures, qui va pénétrer dans le monde souterrain, libérer une princesse, généralement tuer quelques dragons, bien entendu, et qui va réussir à remonter du monde souterrain, généralement sur un aigle énorme, et enfin punir ses compagnons qui avaient essayé de le tromper et triompher. Voilà en gros l'histoire de Jean de l'Ours. Dans le détail, c'est une histoire qui doit être envisagée de manière très précise en rapport avec ses déguisements en ours, ces hommes-ours qui apparaissent, qui vont se battre contre un chasseur, etc. On a aussi un roman de chevalerie qui va opposer deux jumeaux, dont l'un a été élevé par une ours et devient très fort, velu, c'est-à-dire reproduit le type médiéval de l'homme sauvage, cet homme qui appartient à moitié de l'humanité, qui est moitié naturel, moitié prophète. On sait que c'est Merlin qui apparaît sous cette forme, par exemple. Donc, ce jumeau-là est appelé Ourson. Et son frère, lui, a été retrouvé par un roi. il va participer à la vie chevaleresque dès le début. Les deux frères vont se retrouver à un certain moment et Valentin va chasser Ourson. On a une représentation de cette scène dans une gravure de Bruegel et il est très certain que ce qui est représenté au cours des fêtes de l'ours de la Chandeleur correspond à la même histoire que Valentin et Ourson. On a un détail très précis qui permet de l'affirmer, c'est que Ourson, l'homme ours, est récupéré par son frère et emmené dans le palais, et là, pour le rendre humain, on va le raser. Or, la scène finale des Jeux de l'ours dans les Pyrénées-Orientales consiste à, précisément, raser l'ours au cours d'une cérémonie assez élaborée où on le rase avec un énorme rasoir, sur une petite musique de danse, on voit l'ours qui, peu à peu, perd sa peau. C'est véritablement un symbole assez net du passage de l'hiver où l'ours a besoin absolument de sa peau et de sa forme ursine à l'été où il va, en quelque sorte, pouvoir apparaître sous forme humaine. Et cette transformation d'ours à homme ou d'homme à ours est absolument quelque chose de très répandu et de très probable, disons, dans ce que l'on pourrait appeler la mentalité folklorique, pour ne pas parler de mentalité primitive, puisque dans beaucoup de régions, on considère que l'ancêtre mythique des hommes est l'ours.
Mais il y a un élément dans la vie de l'ours au moment où il sort de cet état d'hibernation qui joue aussi un rôle important et qui peut-être expliquerait certains aspects scatologiques de la fête de carnaval, c'est le fameux pet de l'ours.
Ah, là c'est une observation de chasseur. Les biologistes ont remarqué, et très tôt, on a déjà des textes chez Aristote, même chez Théophraste, ont remarqué que l'ours, avant d'hiberner, prenait un certain nombre de plantes fibreuses, des herbes fibreuses, qui allaient former au niveau de son anus un bouchon. Et ce bouchon joue un rôle physiologique. Il s'agit tout simplement d'empêcher que les oxydations se fassent de manière trop importante, de réduire le plus possible les oxydations. Déjà, Pline avait remarqué que si l'ours est dérangé au milieu de l'hiver et qu'il est obligé d'expulser ce bouchon, il peut devenir sauvage et qu'il est très gêné par ce fait-là. C'est donc une observation ancienne et on pensait même, on retrouve le texte chez Pline, qu'à sa sortie, au moment de sa déshibernation, l'ours prenait une plante spéciale, une sorte d'arôme, et il s'en servait comme d'un laxatif. Donc, là, nous partons. Et les zoologues actuellement qui se sont occupés de l'ours affirment que le fait est réel, contrôlable. Nous partons d'un fait réel qui a pu être observé par les chasseurs d'ours depuis des milliers d'années. Et vous savez que les ours apparaissent sous beaucoup de formes, même au niveau de l'iconographie paléolithique. Que se passe-t-il ? Au moment de la déshibernation, le bouchon est expulsé. Et il est expulsé, mais sans excréments, puisque on arrive à la... L'ours n'a pas mangé depuis des mois. Et il est expulsé sous forme d'un vent. Très probablement, anciennement, on estimait que l'ours avait fait pendant l'hiver un voyage souterrain dans le royaume des âmes. Et c'est pour ça qu'il disparaissait. Et à sa sortie au printemps, il était important de libérer les âmes qu'il ramenait de ce royaume souterrain. Pour les libérer, il fallait obtenir un phénomène de purgation. Et là, c'est un élément qui, en carnaval, est très important. La scatologie en carnaval apparaît très tard au niveau de petites scénettes qui ont pu amuser Louis XIV à Chambord au cours du divertissement assez connu qui termine Monsieur de Pourceaugnac. On fait jouer aux acteurs une petite pièce qui est dans l'œuvre de Lully mise sous le titre de pièce de carnaval. Donc il n'y a aucun doute.
Will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo,
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 Galileo
Figaro.
Magnifico!
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah! No, we will not let you go.
Let him go!
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
love's just a game, then come and play.
Jambes qui tremblent, les mains qui collent, je suis en enfer, ça va pas le faire. Tout le monde me trouve étrange, tout le monde me dit qu'il faut que je fasse quelque chose, qu'il faut que je change. Mais je vais tous les faire taire, tranquille, tout en douceur. Faut que je tienne mes promesses, que j'oublie toutes les rues. Je me demande comment tout ça fonctionne. Tu expliques, mais j'ai ma folle en un éclair. Je t'en vais repère. Tout le monde me trouve étrange. Tout le monde me dit qu'il faut que je fasse quelque chose, qu'il faut que je change. Mais je vais tous les faire taire, tranquille, tout en douceur. Faut que je tienne mes promesses, que j'oublie toutes les rues.
Nouveauté fréquence 3.
Fréquence 3.
Let's go!
I give you a reason to keep you believing. I'm scared.